Bonsoir, rendez-vous compte, hein, il a connu en tant que président Clinton, Bush Junior, Obama, Trump, et puis en France, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, oui, ça fait 18 ans qu'il est au pouvoir, hein, et il devrait, eh bien, se succéder à lui-même pour 6 ans de plus dimanche à l'issue du scrutin présidentiel. Oui, les jeux sont faits pour Vladimir Poutine, donc à l'issue d'une non-campagne et d'un scrutin sans surprise. Président à vie, ou presque, à l'instar de son grand voisin Xi Jinping. Alors Poutine, est-ce l'autre empereur ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les meilleurs, comme tous les soirs, ici sur ce plateau des décodeurs de l'écho à BFM Business, à la télé, à la radio. Tatiana Kastoueva, Jean, elle est directrice du Centre Russie à l'IFRI. Elle vient de faire paraître la Russie de Poutine en 100 questions. Il y aura probablement de ces 100 questions que je vais vous poser dans un instant, bien sûr. Julien Vercueil, il est économiste, spécialiste de la Russie, professeur à l'INALCO. Il travaille notamment sur la politique d'ouverture économique de la Russie. Lui, il a signé les pays émergents, Brésil, Inde, Chine, mutations économiques et nouveaux défis. Andrei Gratchev est également avec nous ce soir sur BFM Business, écrivain, politologue russe, hein, il vient de signer un nouvel avant-guerre, point d'interrogation, sur les nouvelles donnes en relations internationales. Il est ancien journaliste de l'URSS et proche du dernier président de l'URSS, Gorbatchev, avec qui il avait travaillé. Alors, oui, je le disais, scrutin joué d'avance, probablement. Tiens, c'est une question que vous posez d'ailleurs, Tatiana Kastoueva, dans votre livre. La Russie est-elle une démocratie ? À l'issue de la campagne, est-ce qu'on doit véritablement parler de scrutin ? Ou de plébiscite pour le président Poutine ?
Formellement, les règles sont, les procédures sont là. Et semble-t-il, selon les sondages, que les Russes y tiennent, qu'il n'est pas question d'annuler cette procédure formelle. On dit même qu'ils votent un peu par habitude. Mais s'il ne s'agit que de valider un résultat connu d'avance, les Russes y tiennent et le pouvoir y tient aussi à ce jeu. Maintenant, il est vrai que les dés sont jetés. On sait très bien que ce sera Vladimir Poutine et ceci dès le premier tour.
Oui, avec finalement en face de lui, pas vraiment de gros poids lourds, hein. On a l'ultranationaliste Jirinovski qui est crédité de 13%, l'homme d'affaires communiste Monsieur Groudinin autour de 13%, Madame Sobchak, fille de Anatoly Sobchak, donc c'était le maire de Leningrad, le maire de Saint-Pétersbourg, exactement. Oui, enfin, je sais pas, peut-être du temps de Leningrad aussi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, qui connaissait très très bien Poutine. 4 à 8%, vous demandez d'ailleurs, est-ce que c'est une réelle candidate ? C'est un petit peu la chouchoute des Occidentaux, des médias, parce que très, très, très télévisuel. Et puis, monsieur Yavlinsky, candidat social-démocrate, de 4 à 8% des voix, et puis des tas de petits candidats qui ne font pas le poids. Il manque Alexei Navalny, l'avocat, l'opposant, qui fait des séjours réguliers en prison, Tatiana Kastoueva.
Oui, c'est tout à fait. Vous avez tout à fait décrit le paysage et les forces en présence aujourd'hui. L'opposant principal, Alexei Navalny, n'est pas là. Il n'a pas été admis à participer à ces élections. Xenia Sobchak peut faire un score plus ou moins intéressant à Moscou. Je sais qu'elle vise à dépasser le score de Mikhail Prokhorov, le candidat libéral qui a participé aux élections de 2012 et qui était d'un petit peu moins de 8%. Donc à Moscou, elle vise à dépasser ce score, mais au niveau national, à mon avis, elle ne dépassera pas 3 ou 4%. Et c'est vrai que nous, les Occidentaux, le discours très européen, libéral et démocratique, on aime beaucoup entendre ça. Mais même pour les gens qui sont dans l'opposition russe, son discours, c'est quand même un discours ultra-libéral. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un discours majoritaire qui peut dominer dans le paysage actuel.
Comment qualifier Andrei Gratchev ce scrutin qui se déroule donc dimanche dans la Russie ?
Bon, on peut le qualifier de différentes façons. C'est vrai, il y a ce qui vient à l'esprit, évidemment, c'est une forme de perpétualisation du règne d'un certain personnage, donc peut-être le signe de sa toute-puissance, surtout par rapport à tous ses concurrents qui sont loin derrière. En même temps, il est permis, et précisément à cause de sa longévité et de présence au pouvoir, de commencer de parler la fin du règne. Pourquoi pas ?
Il a 65 ans quand même. C'est vrai, vous avez rappelé, alors vous utilisez le terme de perpétualisation donc, eh bien, de la présidence de M. Poutine. Il a été élu une première fois en 2000, puis en 2004. Comme il n'avait pas le droit de se représenter en 2008, bon, il a fait un petit arrangement avec son premier ministre, M. Medvedev, l'un devenant président, mais lui laissant la place en 2012. 2012, changement de la Constitution, c'est 6 ans et non plus 4 ans, donc jusqu'en 2018. On est en 2018, il va l'emporter jusqu'en 2024. Vous pensez qu'en 2024, il a encore envie de continuer ? Il a les moyens de continuer, Poutine ? Il n'aura que 71 ans en même temps.
Oui, tout ça, après tout, la réponse à votre question, enfin, c'est
parce que lui, il a promis qu'il n'allait pas bricoler la Constitution pour faire un troisième mandat qui lui est pour l'instant interdit. Hein.
C'est vrai. Bon, quand même, il se rapproche de l'âge, je dirais, d'une certaine précarité, y compris biologique. Mais en même temps, vous avez bien fait d'évoquer enfin toute cette période. Poutine élu pour la première fois en 2000 et ensuite bon avec une petite intermède le passage par le poste de premier ministre alors qu'il était le vrai parrain du président Medvedev. Mais ce qui est derrière cette je dirais une des explications de cette longévité extraordinaire de Poutine, c'est qu'il savait changer avec la Russie, avec le monde et avec le temps, puisque bon, Poutine, je dirais du premier mandat, Poutine numéro un, bon, rien à voir avec avec un Poutine qui va se succéder à lui-même d'ici quelques jours.
Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? C'est quoi ? C'est la structure
déjà
du pays, l'économie du pays, le contexte international finalement avec la Syrie où la Russie est revenue autour de la table des grands du monde.
Il y a plusieurs explications puisque déjà, bon, évidemment, ce sont les caractéristiques personnelles de ce personnage qui est à mon avis est un formidable, je dirais même caméléon politique. Il reflète au moment où il est installé par Yeltsin,
bien sûr, en 99,
son mentor, dans le siège du premier ministre, oui, donc dauphin officiel en 1999. 99, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui est placé par Yeltsin et surtout son entourage. Et son entourage de l'époque, c'était les oligarques, c'était la famille dans tous les sens, la famille au sens propre du terme. La famille politique, économique et tout autre, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, à l'époque, se trouve à la tête d'une Russie faible, d'une Russie qui traverse la crise, qui est en plein tunnel de la transition, et en même temps, c'est quelqu'un qui, sortant de ses fonctions précédentes auprès de Sobchak, maire libéral de Saint-Pétersbourg, a tout intérêt et paraît-il sincèrement la détermination d'essayer d'arrimer sa Russie au plus fort. Et le plus fort, c'est l'Occident à l'époque. Par contre, avec l'évolution de la société, parce que et de l'économie, de la société, de l'esprit de la Russie, Poutine découvre. Il passe par une autre école, je dirais. Alors que sa première école, on peut bien évoquer l'école du KGB qu'il a faite dans ses années de l'Union soviétique, mais ses années de passage par le pouvoir, c'est autant l'école de la gestion de cet énorme pays, avec toutes ses contradictions intérieures, mais c'est aussi l'école de ses relations avec le monde extérieur, avec l'Occident.
Tout juste. Un Occident qui n'en voulait pas tellement, quand même, au début des années
2000. Et donc, Poutine, pragmatique par définition, beaucoup plus qu'idéologue, en quelque sorte, il reflète cette évolution. Et voilà pourquoi nous découvrons maintenant quelqu'un qui est les années-lumière, je dirais, distancé par rapport à ce qu'il était à son premier mandat.
Dans quel contexte, justement, il se présente aujourd'hui ? Contexte politique, contexte international, contexte économique. Tiens, je vous donne la parole, Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie, professeur à l'INALCO. L'économie russe, aujourd'hui, comment se porte-t-elle ?
L'économie russe sort de 2 années de crise assez grave, qui sont consécutives à 2 phénomènes majeurs. D'abord, l'annexion de la Crimée, le conflit dans le Donbass, les sanctions et contre-sanctions qui ont rendu le contexte économique global beaucoup plus conflictuel et beaucoup plus incertain pour la Russie qu'auparavant. Et puis, deuxième élément fondamental, c'est la chute des prix du pétrole. Ces deux éléments combinés ont créé un deuxième choc extrêmement dur pour les finances et pour les entreprises russes qui sont tournées vers l'extérieur après la crise de 2009. C'est ce deuxième choc qui a continué à, je dirais, affaiblir les fondements de cette économie après le premier choc de 2009. La crise économique est derrière la Russie. Elle a subi une baisse de 3,5% de son PIB en cumulé. Mais la reprise économique est lente. C'est-à-dire que la croissance économique de 2007 est de 1,5%.
17 de 2017, oui.
De 2017 et 1,5%. Les perspectives ne sont pas beaucoup plus élevées pour la suite. Et si l'on regarde l'économie de la Russie au taux de change courant, c'est-à-dire en tenant compte de la valeur du rouble telle qu'elle s'est affaiblie par rapport à avant ces crises précédentes, la taille relative de la Russie vis-à-vis du reste du monde est retombée à ce qu'elle était en 2005.
2005, donc bien bien avant la crise. Malgré tout, une inflation maîtrisée à 2,5%, ce qui est considérablement nouveau quand même pour un pays qui a connu quand même des inflations avec plusieurs zéros il n'y a pas encore si longtemps. Un déficit assez modéré, 1,7%, et puis des réserves quand même toujours importantes dans la banque centrale russe. Tout ça, c'est juste tout ça ?
Tout ça, c'est tout à fait juste. Après, il faut regarder un petit peu de plus près quelles sont les causes de ces différents chiffres. Par exemple, pourquoi l'inflation est faible ? Elle est faible pour 2 raisons. La première raison, c'est la réappréciation progressive du rouble qui limite les effets inflationnistes qu'on avait connus en 2015-2016. Et la deuxième raison, c'est la baisse de la demande. C'est-à-dire qu'on a une demande qui est atone et qui fait qu'on ne tire pas par la demande les prix. L'autre élément, c'est les finances publiques. Vous dites que la Russie est faiblement endettée, c'est tout à fait vrai. C'est un des pays les moins endettés du monde, globalement. Mais malgré tout, on a des déficits budgétaires qui se succèdent année après année et qui ne sont pas anodins. On est sur des déficits budgétaires relativement importants, enfin significatifs en pourcentage du PIB. Enfin, vous parlez des réserves. Il y a 2 types de réserves. Je ne veux pas être trop technique.
Premier type
de réserve, c'est les réserves que la banque centrale a dans ses coffres pour lutter contre d'éventuels risques de dépréciation de son taux de change. Et on a vu par le passé que ces réserves étaient totalement insuffisantes lorsque véritablement il y avait un choc fort sur l'euro.
Comme il y a 2 ans.
Donc 2009, premier élément. 2014-2015, deuxième élément. Ce qui répète des scénarios qu'on avait connus sous Eltsine. Vous parliez d'Eltsine tout à l'heure, en 98 et en 94. C'est-à-dire que les mêmes scénarios se sont répétés à 10 ans d'écart. Sous un autre président. Mais ce sont les mêmes phénomènes qui se sont passés. Et enfin, vous parliez de réserves également. Il y a les réserves de l'État lui-même, c'est-à-dire sa capacité à épargner. Il a épargné sur des fonds souverains. Ces fonds souverains aussi ont été très durement impactés par la lutte contre les effets de la crise qui a été menée par le gouvernement de 2015 à aujourd'hui.
Tatiana Kastouava, la Russie de Poutine, on s'en questionne. Parmi les questions que vous posez, et je vous pose également, la Russie est-elle un pays développé quand même, quand on voit par exemple en effet le nombre de pauvres qui existent, et c'est peut-être l'un des points noirs quelque part du bilan de ce 3e ou 4e mandat du président Poutine, le taux de pauvreté de la population qui avait largement diminué donc au début dans les années 2010, avant de grimper d'un seul coup. Expliquez-nous.
Tout à fait. Cette tendance, en effet, s'est inversée en quelque sorte, parce que depuis 2-3 ans, il y a une augmentation du nombre de pauvres qui atteint aujourd'hui 20 millions, semble-t-il, qui représente entre 13 et 14% de la population, ce qui est très considérable. Ça, c'est le premier point noir. Et le deuxième point noir auquel cette histoire, ce problème de pauvreté est lié, ce sont les inégalités sociales dans ce pays, où vraiment il y a un écart écart entre le peuple, nous et les élites, eux, les élites qui ont un mode de consommation très ostentatoire. Donc évidemment, ça peut, c'est l'un des grands échecs, moi je dirais, des présidences Poutine, cette inégalité sociale très persistante.
Et puis l'inégalité territoriale aussi.
Voilà,
Moscou,
on peut aussi rajouter, c'est ce que j'allais dire.
Les grandes villes de l'Ouest versus tout le reste.
Tout à fait. Je parle aussi de cela dans mon livre, de différentes régions. Il y a des économistes russes qui ont élaboré les théories de quatre Russies qui finalement se croisent très peu. La Russie des grandes villes, la Russie des capitales, la Russie des petites villes et la Russie rurale. Ouais. Donc les modes de vie sont complètement différents. Pour une petite anecdote, hier j'ai vu circuler beaucoup une lettre qui décrivait le voyage des enfants venant d'un village dans la ville de Omsk. C'est pour la première fois que ces enfants de 9 ans, entre 9 ans et 12 ans, voyaient le McDonald's, un cinéma moderne, un trolleybus, etc. Et cette lettre était évidemment très émouvante, mais aussi, ça me semblait assez catastrophique qu'on puisse encore vivre comme ça en Russie de 21e siècle.
Et ça, ça lui est reproché ou pas au président Poutine?
C'est très curieux, il y a un vrai paradoxe, parce que quand on demande aux gens, est-ce que vous soutenez la politique du président Poutine, est-ce que vous allez voter pour lui, souvent la réponse est oui. Quand on commence à entrer dans les détails, êtes-vous content de l'état des routes, du travail de la police, de la justice, de l'état de la santé publique ou de l'éducation, les critiques peuvent être extrêmement acerbes, comme si le président n'était pas responsable de l'état des choses au quotidien pour la population russe.
Julien Vercoe, je reviens vers vous un instant, puisque vous évoquiez justement ce qui avait affaibli ces dernières années donc l'économie russe. La chute des prix du pétrole, c'est une économie encore très dépendante du pétrole. À combien, comment on peut le chiffrer ou pas, la dépendance au pétrole?
Alors, on peut le chiffrer de mille et une façons. Ouais. Hein. D'abord, qualitativement, pourquoi est-ce que l'économie de la Russie dépend des prix du pétrole? Elle dépend des prix du pétrole parce que 75% de ses exportations sont directement dépendantes de ces prix, soit d'exportation de gaz, soit d'exportation de pétrole, soit d'exportation de produits pétroliers. Donc, pour ces raisons-là, ça veut dire que les recettes en devises sont totalement indexées sur les prix du pétrole. Ce qui a un effet sur le rouble. C'est-à-dire que les anticipations des agents économiques sur le rouble sont fortement indexées sur les prix du pétrole, étant donné que c'est ça qui va déterminer les équilibres extérieurs de macroéconomiques de la Russie. Donc lorsque les prix du pétrole baissent, eh bien vous voyez le taux de change du rouble qui a de plus en plus de mal à rester stable. Donc ça c'est le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau qui est important, c'est que ça innerve l'ensemble du secteur pétro-gazier, qui est un secteur important dans la valeur ajoutée de la Russie. On l'estime, suivant les estimations, parce que il faut retraiter les statistiques russes pour pouvoir avoir des estimations fiables sur ces questions-là, mais on peut l'estimer à entre 15 et 25% du PIB en termes de valeur ajoutée, suivant les calculs qui sont faits. Donc cet ensemble-là dépend également des prix du pétrole. Et enfin, troisième niveau, c'est le niveau du budget de l'État. C'est-à-dire que l'État dépend, lorsque les prix du pétrole sont élevés, il dépend à 50% des recettes tirées du secteur pétrolier, ce qui fait que les capacités de régulation de l'état de l'économie sont fortement affectées lorsque les prix du pétrole baissent.
Avec notamment un état omniprésent dans l'économie russe, avec de grandes sociétés publiques, des banques, des énergéticiens. Alors on parlait du pétrole, juste l'autre raison, c'était les sanctions, donc liées bien sûr à l'annexion de la Crimée et puis la guerre évidemment dans l'est de l'Ukraine. Le pays, il subit toujours ces sanctions occidentales, ou justement, profitant de ces sanctions, il s'est dit à un moment, on va en profiter pour essayer de renouveler l'économie quelque part, de se moderniser?
Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord la manière dont les acteurs économiques eux-mêmes se sont adaptés aux sanctions. Il y a eu un processus d'adaptation, on le voit dans les enquêtes sur les entreprises. Les entreprises s'adaptent en essayant de trouver de nouveaux fournisseurs ou de nouvelles sources de financement, puisque les sources de financement extérieures en dollars sont beaucoup moins faciles à obtenir pour toute une série de raisons, en particulier pour les grands acteurs. Donc il y a des comportements d'adaptation à l'échelle microéconomique, à l'échelle de chaque acteur. Exemple, on a vu les entreprises, les grandes entreprises, russe se désendetter massivement juste après les sanctions. Elles ont, de ce point de vue-là, été de moins en moins dépendantes de financement extérieur. Donc, de cette manière-là, elles s'émancipent de financement extérieur et elles trouvent des financements alternatifs. Donc, elles y arrivent, elles y parviennent. Maintenant, si la question est de savoir si de ce fait-là, on a effectivement une tendance à la modernisation et à l'émancipation de la rente pétrolière ou de phénomènes de financement extérieur, la réponse est pour l'instant non.
Hein,
pour l'instant, on a des volontés de mettre en place un certain nombre de programmes pilotés par l'État de substitution aux importations.
De high-tech également. C'est l'une des priorités de Poutine, notamment.
Sur la high-tech aussi, on voit des programmes. Mais
il pousse les entreprises à investir dans les start-up.
Mais sur le terrain, on ne voit pas les résultats concrets.
Oui.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un véritable potentiel de modernisation, notamment dans les secteurs high-tech.
Bien sûr. Et là, on voit comment une Silicon Valley russe essaie d'émerger depuis 8 ans, hein, le projet Skolkovo, donc à la sortie de Moscou. Pour l'instant, ça ne bouge pas énormément.
Oui, si je peux ajouter un point, parce qu'on parle beaucoup de Skolkovo et des grands programmes d'État, et souvent on en parle pour dire que ça ne donne pas beaucoup de résultats, à juste titre. Ce dont on parle un petit peu moins, c'est de la vitalité réelle et concrète d'un certain nombre de secteurs liés aux technologies et qui se développent de manière presque spontanée. C'est le cas des entreprises de services informatiques et en particulier de génie logiciel. Là, je regardais les chiffres récemment. Les statistiques de 2017 ont changé, ont été publiées, et on a 8,7 milliards de recettes étrangères, de recettes de vente à l'étranger, de la part de l'ensemble des entreprises russes qui travaillent dans le secteur du software. Hein, et donc, ça, c'est 180 000 emplois, et ce sont des emplois hautement qualifiés. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière spontanée, par le bas.
Avec une grosse pénétration de l'Internet, et puis la 4G qui, paradoxalement, est plus développée en Russie que par exemple en France. André Gratchev, s'il vous plaît. Excusez-moi, on a beaucoup parlé d'économie. Peut-être voulez-vous intervenir sur l'économie ?
Je commencerai par votre première interrogation, c'est-à-dire la Russie peut-elle être considérée comme un pays développé ?
Oui.
Là, à mon avis, il faut ajouter à des facteurs qualitatifs et quantitatifs aussi, des facteurs, bon, je dirais à la limite des champs politiques, puisque bon, qu'est-ce que ça signifie un pays sous-développé ou, je dirais, qui ne fait pas partie du monde développé? C'est la qualité de la vie. C'est le niveau où, je dirais, la qualité des systèmes comme l'éducation, la santé. Bref, l'ensemble des aspects qui conditionne la vie quotidienne des plusieurs générations et qui surtout doivent leur expliquer l'évolution de cette qualité de vie. Dans quel sens ça va? C'est vrai que bon, il y a des explications parfois faciles qui sont sorties par le pouvoir politique, les sanctions occidentales, le fait que la Russie devienne à nouveau victime de la pression, de l'entourage, des attaques, quasiment de l'agression du monde occidental. Mais en même temps, il y a une sorte de ce phénomène de la décomposition du tissu social qui se manifeste, bon, bien sûr, au-delà de cercles des élites privilégiées, mais même les élites, évidemment, sont aussi des victimes des sanctions. Maintenant, pour ce qui concerne l'effet des sanctions, il faut ajouter les contre-sanctions. Les contre-sanctions annoncées d'une manière avant tout politique, comme une sorte de réplique obligée de la Russie à cette tentative, de la pression occidentale à cette façon de la punir pour son comportement, pour son indépendance, comme aime à le formuler Poutine.
Notamment sur les exportations agricoles.
Mais en même temps, précisément, l'effet cumulé de ces sanctions, et même peut-être plutôt des contre-sanctions, libère le marché intérieur. Et c'est à l'intérieur de ce marché que tous les secteurs jusque-là, bon, qui était écrasé en quelque sorte par le poids des importations obligées, par la performance, par l'efficacité de l'économie extérieure,
sont des secteurs qui sont balayés.
commence à se réveiller et d'occuper cet espace économique. Et je termine par une autre caractéristique, à mon avis pas moins négligeable, de la qualification d'un pays développé, sous-développé ou pas assez développé, c'est la corruption.
Ah oui, bien sûr.
Là, c'est une donne toujours présente.
L'économie
mais qui a, des raisons d'être caractérisée comme repartie, à mon avis, en flèche quasiment dans les dernières années de cette entrée de la Russie dans la sensation de cette crise en partie imposée sur elle, voilà, de cet isolement à la fois venant de l'extérieur, mais aussi auto-imposé par le pouvoir.
Tatiana, qu'est-ce que tu vas voir ?
Je pense qu'il y a un point important et d'actualité à mentionner. Dans son discours du 1er mars devant l'Assemblée fédérale, Vladimir Poutine a consacré la première partie à la percée technologique que la Russie devait faire pendant son quatrième mandat à venir. Et il a dit « Nos ennemis ne sont pas à l'extérieur, ils sont bien à l'intérieur du pays et c'est le potentiel retard technologique de la Russie. » Donc on peut se poser la question, est-ce que la Russie se donne assez de moyens pendant ce quatrième mandat, faire cette percée technologique. Et là, il y a plusieurs paramètres qu'on peut regarder et qui sont malheureusement laissent assez sceptiques. Outre le fait que c'est un discours sur la diversification de l'économie qui est répété depuis 18 ans et que les choses ont peut-être avancé un petit peu sur certains secteurs, mais il n'y a pas de changement systémique. Il faut quand même aussi regarder le niveau d'investissement dans la recherche et le développement, qui est bien inférieur non seulement aux États-Unis, mais aussi à la Chine. Il faut aussi regarder les problèmes démographiques du pays.
La Russie, elle n'est que 25e mondiale des pays en termes d'innovation selon l'index Bloomberg, par exemple. Je prends cet exemple-là, on aurait pu en citer d'autres.
Merci beaucoup pour le chiffre cité à l'appui. Mais c'est aussi les problèmes donc démographiques, parce que le nombre de personnes actives se réduit. Depuis 2005, en fait, il y a une perte de presque 7 millions de populations actives. La Russie n'a pas du tout cet avantage comparatif qui est la main-d'œuvre bon marché dont pouvait disposer quelques pays de l'Asie Pacifique. Puis on peut y rajouter le besoin des technologies occidentales et donc les sanctions
qui
jouent
dans ce facteur. Évidemment qu'elles arrivent.
Et puis plein beaucoup d'autres choses qui font que cette percée reste hypothétique.
Bon, on verra à quoi ressemblera aussi le prochain mandat de Vladimir Poutine qui va donc être réélu pour un cinquième mandat. Enfin, évidemment, si on retire le petit tour de passe-passe quand il était devenu Premier ministre en 2008. Hein. Et puis peut-être la Russie qui revient sur la scène diplomatique, grâce ou à cause de la Syrie peut-être. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, Poutine, Vladimir Poutine, qui va donc se succéder à lui-même pour un cinquième mandat. Allez, évidemment, je parle de cinquième mandat. Il a fait 4 mandats, même s'il n'en a fait que 3 officiellement, mais comme il avait échangé avec son Premier ministre en 2008, voilà, il est assuré donc d'être élu normalement dimanche pour 6 ans supplémentaires. Alors c'est vrai, une élection qui se situe dans un contexte très particulier, vous savez, après l'affaire de l'empoisonnement donc à Salisbury d'un ancien espion russe, empoisonnement attribué donc en tout cas par Londres et puis aujourd'hui par Berlin, par Paris, par Washington, à Moscou, hein, qui dit voilà la responsabilité russe c'est la seule explication plausible. Alors il y a eu des expulsions de diplomates russes de Londres en dehors du Royaume-Uni. Ce soir, Emmanuel Macron a décidé de boycotter le pavillon russe au Salon du Livre. Il parle d'attaques ignobles. Pour l'instant, on en est juste à des rétorsions diplomatiques qui vont toucher le mondial aussi. Il n'y aura pas de membres de la famille royale dans la tribune. Bon, très bien. Est-ce que les Russes auraient les moyens de supporter d'éventuelles rétorsions commerciales, économiques, si elles arrivent. Hein. Pour l'instant, Londres n'a absolument rien décidé. Hein. Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie à l'INALCO.
Alors, tout dépend évidemment de la nature et de l'ampleur des sanctions qui seraient décidées. C'est-à-dire que s'il s'agit de sanctions sectorielles, il est évident que l'économie russe s'adapterait, comme elle s'est adaptée avec des difficultés, bien sûr, aux sanctions précédentes. En revanche, ce qui peut être plus problématique, c'est si les sanctions étaient un peu plus globales. C'est-à-dire si elles touchaient des questions plus générales, le refinancement de la dette publique ou des questions qui toucheraient davantage le cœur du fonctionnement de l'économie. Là, on aurait plus de difficultés à trouver des solutions. Mais ce serait des problèmes de court terme qui se poseraient à ce moment-là à l'économie de la Russie. Je pense que sur le fond, l'essentiel de ce qui détermine la trajectoire économique à long terme de la Russie dépend des réformes qui pourront être menées à l'intérieur de la Russie.
Et uniquement des réformes, et pour l'instant, on les entend un petit peu, c'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure.
Voilà.
Andrei Gratchev, qui est avec nous également, écrivain, politologue, auteur de Un nouvel avant-guerre, ancien proche de l'ancien président, du dernier président soviétique, Gorbatchev. Vous aviez travaillé avec lui. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait des sanctions économiques, s'il y avait des représailles économiques?
Voilà, précisément, tout le poids, c'est dans votre scie, puisque moi, j'ai l'impression que les nouvelles sanctions économiques, peut-être, vont être, pour une série de raisons, la dernière chose auxquelles vont recourir les partenaires occidentaux de Poutine. Bon, en commençant par l'intérêt assez pratique et pragmatique de la City de Londres.
Bien sûr.
Parce que c'est pas un hasard que de tous les pays occidentaux, c'est Londres qui a réuni d'une part, une grande famille des oligarques russes, c'est-à-dire de cette même élite des privilégiés, on peut dire des profiteurs, en partie des gérants, de toute façon des financiers de la Russie de Poutine, mais en même temps, c'est la City de Londres qui en profite énormément. Et donc, de ce point de vue, je vois mal l'accentuation des sanctions sur cette direction. Par contre, je crois que, vu le caractère assez rhétorique, plutôt politique, provoqué par cet incident avec l'ancien espion, d'ailleurs... c'est un peu difficile de le qualifier. S'agit-il de l'espion russe ou de l'espion anglais?
Des deux
à la fois.
Je ne veux pas qu'on y passe non plus trop de temps, c'est ça. Oui.
Je crois quand même que côté occidental, peut-être moins du côté britannique, mais du côté européen, puisque après tout, la Grande-Bretagne, ça ne fait plus de cette famille, mais aussi du côté américain, on doit être conscient de ce que les nouvelles sanctions, les nouvelles pressions, surtout sous la forme assez arrogante, assez humiliante qu'ils ont pris tout à l'heure, dans la déclaration de Premier ministre britannique, sont un cadeau électoral pour Poutine.
Ah oui, carrément, ouais.
Parce que je peux vous assurer que grâce à ce scandale et surtout à la réaction à la limite de l'hystérie occidentale et surtout dans les circonstances où, il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas de ce qu'on appellerait le smoking gun, qui existait jusqu'avant.
Bien sûr.
On est en train de faire revenir le climat dans les relations de l'Occident avec la Russie dans une période d'il y a 30, d'il y a 40 ans, de toute façon d'avant Gorbatchev, évidemment, d'avant la fin de la guerre froide, et cela sans aucune, justification réelle. Pas de conflit idéologique, pas de menace militaire de la Russie comme à l'époque de l'Union soviétique. Sûr, ouais. Et donc, il s'agit de la guerre des postures, de la guerre de bluff, de la guerre, on peut dire en quelque sorte, qui prend beaucoup plus la forme des manifestations, du jeu à la nouvelle édition de la guerre froide, que de la nouvelle confrontation réelle.
C'est vrai, Tatiana Kastoeva, donc auteur de La Russie de Poutine, en sans question. Poutine a sa population, quand il s'adresse à... On ne l'a pas beaucoup vu durant la campagne, à part ce discours, ce grand rendez-vous du 1er mars, 145 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est un petit peu le monde contre nous? C'est, regardez, il y a des sanctions qui sont édictées par Londres, le président de la République française ne vient pas visiter le salon du livre, le stand russe au salon du livre. Regardez, on est exclu du CIO. Regardez, il y a des sanctions. Il joue là-dessus, Poutine. C'est sa réélection assurée encore plus, finalement, cette histoire de l'espion.
Vous avez commencé par souligner un point très intéressant. C'est une campagne qui est quand même assez bas profil et Vladimir Poutine garde un bas profil dans cette campagne.
Autant les autres,
on l'a pas beaucoup vu. part le 1er mars, il a fallu attendre le 1er mars pour avoir des éléments sur son prochain mandat. Et je crois que c'est pour la première fois en janvier, il a été annoncé même qu'il était malade, donc qu'il a complètement disparu des radars. Et donc c'est le 1er mars qui donne les indications qui sont assez schizophréniques, parce qu'en même temps, le premier parti du discours parle de la percée technologique et fait toutes sortes de promesses électorales, d'amélioration du niveau de vie sociale, etc. Mais il y a la deuxième partie qui vient, et c'est une partie extrêmement militarisée, parce que Poutine a montré cette vidéo des armes modernes russes, y compris avec des éléments nucléaires dont la Russie dispose désormais, et qui peuvent lui permettre de toucher l'Occident dans son cœur. Donc il joue sur les deux plans. La population est sensible à la fois aux deux parties du discours. Le problème, c'est que ces deux parties du discours sont difficilement compatibles entre elles.
C'est l'homme de la grandeur russe retrouvé, justement. Prenez la parole, Julien Vercueil, justement. La Syrie, voilà, la guerre en Syrie, quelque part, qui s'est traduite par un succès militaire pour la Russie, quelque part, puisque l'engagement a été assez limité, les pertes ont été assez limitées. Alors bon, après, est-ce qu'il n'est pas toujours otage de Bachar al-Assad ? Ça, c'est encore une autre question. Mais enfin, en tout cas, on a vu la Russie revenir autour de la table, quelque part. On a vu la Russie montrer son matériel militaire, l'industrie de l'armement qui a été entretenue. On a vu du très beau matériel, à tel point que la Turquie envisage d'acheter, par exemple, un système antimissile russe. Vous voyez, tout ça, quelque part, le retour de la Russie ?
Alors, indiscutablement, il y a un retour de la Russie sur un certain nombre de dimensions. Prenons par exemple, ne serait-ce que la question du niveau de vie et de la manière dont ça peut être exploité dans une campagne électorale de cette manière-là. On peut se souvenir de l'augmentation tout à fait spectaculaire du niveau de vie de la population russe entre 2000 et aujourd'hui. Simplement, ce qu'on va omettre dans cette campagne, c'est le fait que l'essentiel de cette augmentation s'est faite entre 2000 et 2008. Et que depuis 2008, il y a eu stagnation du niveau de vie. Donc, il y a eu des transformations. Mais ces transformations ont eu lieu dans la première partie de la période Poutine. Et depuis, on a une décennie que l'on peut qualifier de décennie perdue du point de vue du développement économique de la Russie. Et c'est aussi la période, et est-ce que c'est un hasard, est-ce que ça ne l'est pas, où la Russie est devenue beaucoup plus entreprenante sur le plan diplomatique et militaire. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que il est possible qu'on arrive à une contradiction, en fait, entre les possibilités économiques de long terme de la Russie, compte tenu de son modèle de développement tel qu'il s'est développé depuis 25 ans, et ses souhaits en matière d'influence internationale.
Le militaire, le budget de la défense, il a bondi d'un tiers cette année à 40 milliards d'euros. C'est le deuxième poste après le social. Moscou cherche à relancer la course aux armements. Est-ce que l'économie russe a les reins suffisamment solides pour relancer et accélérer sur la défense ? Tatiana Kastiova.
Il faut rappeler quand même que la Russie dépense son budget militaire est 10 fois plus petit que celui des États-Unis et 5 fois plus petit que celui de la Chine. Mais en revanche, en termes relatifs, en termes du PIB, c'est le pays leader. Ça a pu atteindre il y a 2 ans 5,3% du PIB, la dépense militaire. Et la Russie sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de cette dépense militaire. Donc ça a été révisé à la baisse. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 3% du PIB. Donc c'est quand même, les Russes sont extrêmement conscients qu'ils peuvent pas se permettre la course aux armements. Et le mot-clé aujourd'hui dans le débat stratégique russe, c'est la recherche des réponses asymétriques.
Ah oui, Andrei Grachev.
Oui, quand j'ai évoqué un cadeau électoral qui a été fait par cet incident et surtout la réaction occidentale à Poutine, je crois qu'il y a un aspect important. Cette exaltation, je dirais, de la Russie comme un nouvel épouvantail sur la scène internationale, une nouvelle menace, un nouvel empereur, Poutine.
C'est l'autre empereur.
Facilite à Poutine de cacher, de plâtrer en quelque sorte, le contraste entre les deux volets, je dirais, de sa présence, de son passage par le pouvoir au Kremlin. Parce qu'en effet, j'ai évoqué Poutine numéro 1, numéro 2, avec peut-être l'ambition, peut-être probablement sincère, de réformer, de moderniser la Russie, en commençant par la modernisation de l'économie, mais aussi de la société. Alors que, au fur et à mesure de l'évolution ou des tentatives qui étaient entreprises, avec un succès partiel avec les difficultés dans leur relation avec l'Occident, il a pu découvrir, tout comme son entourage, de ce que cette modernisation risque de mettre en péril le pouvoir politique. Ouais. D'où le déplacement de centres de poids dans l'attention, dans l'action de ce pouvoir vers les aspects beaucoup plus militarisés, patriotiques, idéologiques, en sacrifiant l'aspect de la réforme économique, l'augmentation du niveau de la vie, modernisation de la science et de l'économie. Et maintenant, c'est pas un hasard de ce que le jour de l'élection a été choisi, comme le jour de l'élection était l'anniversaire de l'annexion de la Crimée.
C'est vrai de le rappeler.
Le 18 mars.
Ah, bah oui, bien sûr.
Parce qu'en quelque sorte, c'est une des dernières cartouches que Poutine peut tirer pour faire oublier les échecs de ses promesse de ses débuts de la carrière.
Vous me dites un mot, Tatiana Kastureva, juste à quoi va ressembler le prochain mandat jusqu'en 2024. Alors on ne sait pas s'il a un successeur, on ne sait pas s'il changera la constitution ou pas pour continuer, mais parlons déjà de 18-24. Hein.
Je pense que Vladimir Poutine essaiera de tout faire pour préserver le statu quo, préserver les acquis internationaux confirmés pendant ce troisième mandat, tout en essayant de développer les aspects économiques et sociaux. Sur les méthodes, en fait, il y a une grande interrogation qui subsiste. C'est un régime qui s'adapte très bien au changement de la conjoncture et qui peut être très réactif. Donc il y a quand même des surprises que la Russie peut nous réserver.
C'est l'autre empereur, je posais la question, versus Xi Jinping qui lui aussi a changé la constitution pour avoir un pouvoir à vie.
Pour être empereur, faut avoir un empire. Donc, c'est tout un débat que j'ouvre pas maintenant sur l'Eurasie et les relations avec l'ancien espace soviétique. Maintenant, je pense que l'exemple chinois, ça doit être quelque chose que Vladimir Poutine regarde de près.
Bon, allez, tu as le mot de la fin, Julien Vercueil. On se dit au revoir, c'est promis. C'est passionnant.
Eh bien, si c'est un empereur, c'est un empereur économiquement fragile.
Bon, c'est dit. Merci à tous. Merci donc Tatiana Kastureva-Jean, directrice du Centre Russie de l'IFRI, auteur de La Russie de Poutine en 100 questions. J'aime bien cette collection. Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie, professeur à l'INALCO, les pays émergents, Brésil, Inde, Chine, mutations économiques et nouveaux défis. Et puis Andrei Gardchev qui lui a planché sur les nouvelles donnes en relations internationales, donc au travers de ce nouvel avant-guerre, point d'interrogation. On revient vite avec les décodeurs de l'écho. À bientôt.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.